Il est midi et demi. L'heure du journal avec vous, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous. Retour à la négociation. Le gouvernement a commencé à recevoir ce matin syndicats et patronats dans un nouveau round de concertation afin de tenter une fois de plus d'éteindre le conflit contre la réforme des retraites qui en est à son 34e jour.
Depuis son retour en Iran, le cercueil du général Soleimani continue de drainer les foules.
Oui, ce matin encore, lors des funérailles, les Iraniens en deuil n'ont pas caché leur colère contre les États-Unis. Puis dans le même temps, les ministres des Affaires étrangères de la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni doivent eux se réunir aujourd'hui à Bruxelles pour évoquer le dossier iranien, mais pas seulement, la situation en Libye également, et ce au lendemain de la prise de Sirte par les forces du maréchal Haftar. Les cérémonies en hommage aux 17 victimes des attaques de Charlie Hebdo, Montrouge et de l'Hypercacher en janvier 2015, point de départ d'une vague d'attentats djihadistes en France, ont débuté ce matin à Paris. Invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. Et puis à 12h55, Raphaël, ce sera la grande table des idées.
Et il sera question de la série documentaire Décolonisation diffusée ce soir sur Arte. L'historien Pierre Singaravelou, co-auteur de ces trois films, sera notre invité.
Merci et à tout à l'heure. Même si chaque nouvelle semaine qui passe est généralement présentée comme décisive pour le gouvernement, difficile en ce 34e jour de grève contre la réforme des retraites de ne pas voir dans le rôle du chef du gouvernement un infatigable Sisyphe, marcheur malgré lui, obligé à chaque jour qui passe de recommencer de zéro son épuisante ascension. Et pour cause, là et même les pierres d'achoppement restent si nombreuses qu'on voit mal le gouvernement et les partenaires sociaux aboutir à un compromis rapide de nature à mettre un terme à plus d'un mois de perturbations dans les transports. Alors les discussions suspendues pendant les vacances de Noël ont repris ce matin au ministère du Travail, au menu pénibilité et gestion des fins de carrière, et c'est Édouard Philippe en personne qui a ouvert donc la première séance, le chef du gouvernement qui continue de se dire à la fois confiant mais aussi ouvert sur beaucoup de sujets. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors entre négociations, manifestations, mais aussi blocage des raffineries, eh bien la crise qui s'est installée en France semble aujourd'hui sans fin, d'autant que si le Premier ministre se dit en effet ouvert, il répète aussi à l'envi sa détermination à mener à bien cette réforme. Ou dit autrement, la marge de manœuvre paraît encore assez étroite. On a d'ailleurs appris qu'une première mouture du projet de loi avait même déjà été envoyée au Conseil d'État. Bref, lorsqu'Édouard Philippe demande à ce que chacun, je cite, fasse un pas vers l'autre, on a du mal, Pierre, à percevoir ce qu'il faut comprendre de la part de celui qui s'est toujours refusé d'ailleurs à prendre sa carte de marcheur officielle.
En effet, au 34e jour de conflit, la notion d'âge pivot demeure le point de crispation entre le Premier ministre et les syndicats réformistes. Ce matin, Édouard Philippe a réaffirmé toute sa détermination à conduire cette réforme en faisant sienne la méthode du « en même temps ». Je suis ferme sur l'objectif et en même temps ouvert sur la façon dont on peut y arriver. Fermeté lorsqu'il explique que les Français devront travailler plus longtemps. Fermeté lorsqu'il explique garantir l'équilibre financier des retraites par la mise en place d'un âge pivot, même s'il dit ne pas être fermé sur aucune modalité concernant cet âge pivot. Preuve de sa bonne volonté, eh bien le Premier ministre accepte la proposition d'une conférence de financement des retraites suggérée par Laurent Berger. C'est donc une lecture à double niveau qui est proposé aux partenaires sociaux. Et ça, Laurent Berger l'a bien compris, puisqu'il reconnaît que l'âge pivot ne semble plus maintenant être un totem pour le Premier ministre. Mais le secrétaire général de la CFDT ne veut pas discuter des modalités de l'âge pivot. Il exige que cet âge d'équilibre soit tout simplement retiré du projet de loi. Ce matin, devant les partenaires sociaux réunis au ministère du Travail, le Premier ministre a appelé son agenda. Présentation du texte en Conseil des ministres le 24 janvier. Examen du projet de loi à l'Assemblée à partir du 17 février. Il fixe un premier rendez-vous patronat et syndicat vendredi matin à Matignon pour discuter des modalités de la conférence de financement.
Nous devons nous mettre d'accord sur le mandat de cette conférence de financement, sur le délai qui lui sera accordé pour aboutir ou proposer des solutions ou dégager des solutions consensuelles. C'est une bonne idée, j'ai eu l'occasion de le dire. C'est une idée qui nous permet d'envisager une discussion documentée, chiffrée, sereine, je l'espère.
Voilà, Édouard Philippe n'en dit pas plus. Interrogé par les journalistes sur la question de l'âge pivot, le Premier ministre a tourné les talons. Et cette notion d'âge pivot, on le sait maintenant, apparaît dans le texte soumis à l'examen du Conseil d'État en ce moment. On le voit, Thomas, on est encore loin, très loin d'un compromis.
Merci Pierre Neveu. C'était le 7 novembre dernier, des familles entières de migrants étaient évacuées de la porte de la Chapelle à Paris. Des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants orientés vers des gymnases et autres centres d'hébergement d'urgence. Eh bien, un mois plus tard, tout juste, nous nous sommes demandé donc ce qu'ils étaient devenus, mais également si les autorités avaient bien respecté leur engagement d'éviter toute reformation de ces lieux. C'est un reportage signé Dounia Maïdine.
C'était la 59e évacuation d'un campement de migrants qu'a connu Paris depuis 2015. 1600 personnes étaient concernées et prises en charge lors de cette opération, comme l'explique Julie Lavessière, coordinatrice de l'association Utopia 56.
Les familles sont montées dans les bus, ont été réparties suivant les bus, donc c'était vraiment, c'est du hasard suivant les bus, ils allaient dans des centres ou dans d'autres. Là, c'était une opération de plus grande ampleur, donc elles ont eu des solutions d'hébergement, mais c'est clairement pas de l'automatisme pour les familles à la rue.
Au centre commercial de Bercy, dans le 12e arrondissement de Paris, un couple de Géorgiens et leurs deux enfants s'abritent pour la journée. Une fois la nuit tombée, l'association Aurore les accueille au centre d'insertion des réfugiés. Maria, la mère de famille, raconte.
Nous n'avons pas d'endroit où rester durant la journée, alors on marche dans tout Paris. Nous sommes restés 9 mois à la rue. Aujourd'hui, la situation est meilleure, c'est certain, car nous avons un endroit pour la nuit. Quand on sait que l'hiver est bientôt fini, c'est très dur, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir.
La situation administrative des familles doit être examinée pour qu'un hébergement leur soit proposé. Mais pour Perrine Leclerc, directrice du centre, pas de retour à la rue possible.
On a un accueil temporaire en attendant que ces familles soient orientées vers un dispositif d'hébergement dédié à l'asile. On a accueilli au total 91 personnes et puis on a déjà 9 familles qui ont été orientées depuis l'ouverture donc vers différents dispositifs d'hébergement pour demandeurs d'asile en Ile-de-France ou en province.
Les associations chiffrent à 2500 le nombre de personnes à la rue. Elles n'ont pas pu être évacuées. Le gouvernement s'est quant à lui engagé à mobiliser 16 000 places pour les réfugiés en 2020.
En Libye, les troupes du maréchal Haftar se sont emparées hier de la ville de Sirte, portant ainsi un coup dur à leur rival. Tout d'abord parce que cette ville clé est un lieu symbolique, puisque c'est la ville natale de Muammar Kadhafi, mais aussi parce qu'elle est extrêmement stratégique, car elle se situe à proximité des puits et des ports de pétrole du centre et du littoral libyen. Enfin, cette prise de guerre intervient évidemment et surtout dans un contexte régional tendu. Bertrand Galichet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors, sans doute faut-il d'abord rappeler que dans cette lutte d'influence dévastatrice depuis 2011, deux autorités se disputent donc aujourd'hui le pouvoir en Libye. D'un côté, le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, soutenu par l'ONU, mais aussi le Qatar, sans oublier la Turquie qui vient d'envoyer des troupes sur place. Et puis, de l'autre, un gouvernement et un parlement dans l'est libyen acquis au maréchal Haftar, mais également soutenu par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte. Et dans ce véritable imbroglio donc, la France, elle, Bertrand, occupe une place, disons, ambigu.
Oui, deux formules lapidaires peuvent résumer la politique de la France en Libye. Ne pas insulter l'avenir et plus prosaïquement, garder deux fers au feu. Autrement dit, Paris, qui soutient très officiellement le gouvernement Sarraj, reconnu par les Nations Unies, entretient aussi d'excellentes relations avec son ennemi juré Khalifa Haftar. Une forme de « en même temps » qui ne doit pas forcément être vue comme du cynisme diplomatique, mais plutôt considérée à l'aune de la réelle politique. Car la France consciente des enjeux, la lutte contre les réseaux d'immigration clandestine et contre le terrorisme, a besoin de cultiver des partenariats avec l'un et l'autre camp. D'où l'inquiétude manifestée par l'Élysée vendredi dernier sur le risque d'escalade lié au renforcement des interférences militaires étrangères, à savoir celles de la Turquie et du Qatar qui volent au secours du gouvernement de Tripoli, lequel a bien compris l'attitude ambivalente qui prévaut à Paris. Le mois dernier, le gouvernement Sarraj a demandé à 5 pays dit ami l'instauration d'accords sécuritaires pour l'aider à repousser l'offensive lancée contre la capitale. Parmi ces pays figurent des Occidentaux, les États-Unis, l'Italie et le Royaume-Uni, mais pas la France. Au-delà de l'intérêt qu'elle trouve à ménager les uns et les autres, la diplomatie française avance un argument qui peut s'entendre. Personne aujourd'hui ne détient un mandat du peuple libyen. Depuis longtemps, Paris plaide pour des élections, estimant qu'une seule solution politique impliquant l'ensemble des Libyens est l'issue possible. Une réunion ministérielle de 4 pays européens, dont la France, doit avoir lieu demain au Caire à l'initiative de l'Égypte qui soutient le maréchal Haftar.
Merci Bertrand Galichet. Comme si le contexte n'était déjà pas assez explosif, voici qu'une lettre émanant du commandement militaire américain en Irak, prévenant Bagdad d'un redéploiement des forces américaines, a été envoyée par erreur hier un cafouillage qui n'a pas manqué de créer la confusion. Le secrétaire américain à la Défense a aussitôt précisé que les États-Unis étaient bel et bien en train de redéployer leurs troupes en Irak, mais qu'ils n'entendaient pas quitter le pays. Toujours est-il que cet énorme cafouillage est donc venu s'ajouter à une situation ô combien tendue depuis l'élimination à Bagdad du général iranien Rassem Soleimani. Christian Chéneau, bonjour.
Bonjour.
Alors, à défaut d'entendre résonner le bruit des bottes, l'affrontement verbal ne cesse de monter entre Washington et Téhéran. Les responsables iraniens en particulier multiplient les menaces de représailles militaires contre les États-Unis. Et pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, lors de l'hommage populaire rendu à Téhéran au général, eh bien, la foule en deuil n'a rompu son silence que pour scander « mort à l'Amérique ».
Oui, et la colère et l'émotion après l'assassinat du général Qassem Soleimani ne retombent pas en Iran. L'hommage populaire continue aujourd'hui dans la ville de Kerman, dernière étape de ces funérailles grandioses. C'est ici, dans cette cité du sud-est du pays, que le chef de la force Al-Quds doit être enterré cet après-midi, toujours dans un climat de très grande ferveur. Une bousculade a d'ailleurs fait plus de 30 morts ce matin, tant la foule était dense autour du cercueil. L'Iran qui pleure son héros national et qui crie vengeance dans une rhétorique enflammée. Ali Shamkhani, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, a promis un cauchemar historique pour tous les Américains. Ce personnage important de la République islamique a fait savoir que Téhéran examinait 13 scénarios pour venger la mort du général Soleimani. Il n'a évidemment pas précisé dans quel pays pourraient se dérouler ces représailles, mais cette liste résonne en écho aux 52 cibles iraniennes annoncées par Donald Trump si Téhéran s'avisait de répliquer. Dans ce climat de grande tension, le Parlement iranien, le Majlis, a adopté ce matin en urgence une loi déclarant terroriste toutes les forces armées américaines déployées de la Corne de l'Afrique à l'Asie centrale en passant par le Moyen-Orient. Pour l'Iran, chaque soldat américain ou officier est devenu désormais une cible légitime. En tout cas, la pression continue de monter entre Washington et Téhéran, y compris au niveau diplomatique. Les États-Unis ont refusé d'accorder un visa au ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Zarif, qui lui aurait permis d'assister à une réunion qui doit se tenir jeudi au siège de l'ONU à New York.
Merci Christian Chéneau. En pleine impasse diplomatique, le président sud-coréen Moon Jae-in, inlassable avocat du dialogue intercoréen, a plaidé ce matin en faveur d'une relance de la diplomatie avec son homologue Kim Jong-un. Une main tendue moins d'une semaine après que le leader nord-coréen eut menacé de montrer au monde une nouvelle arme stratégique, et alors même que le chef autocrate vient par ailleurs de renoncer au moratoire sur les essais nucléaires. Aux États-Unis, le bras de fer entre démocrates et républicains continue de paralyser la procédure d'impeachment lancé après la mise en accusation historique de Donald Trump pour abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Or, hier, la pression sur les élus républicains de la Chambre haute, dont le chef refuse d'accéder aux demandes de l'opposition démocrate, désireuse d'entendre quatre hauts conseillers de Donald Trump, s'est accrue de manière spectaculaire après que John Bolton, l'ancien conseiller déchu, s'est dit prêt, lui, à être interrogé lors du procès en destitution du président américain, à la condition, toutefois, d'être formellement convoqué par le Sénat. Au Royaume-Uni, loin des mois de psychodrame et de paralysie qui auront marqué l'année 2019, c'est un Parlement tout acquis à la cause du chef du gouvernement qui est appelé à reprendre aujourd'hui ses travaux pour sortir le pays de l'UE à la fin du mois. Le projet de loi qui a passé haut la main l'épreuve du premier vote avant la trêve de fin d'année doit de nouveau être soumis au suffrage des députés. Et puis, après sa débâcle aux dernières législatives, la pire défaite qu'ait connue le parti britannique depuis 1935, le Labour se cherche, lui, un nouveau meneur, Jeremy Corbyn. L'actuel chef des travaillistes abandonnera la direction du parti le 4 avril prochain et la campagne pour lui succéder démarre officiellement aujourd'hui. Alors dans cette bataille pour le leadership, en même temps qu'une nouvelle ligne politique entre le radicalisme de gauche revendiqué de Corbyn d'un côté et puis le libéralisme assumé des années Blair de l'autre, 5 candidats, dont 3 femmes, se sont d'ores et déjà officiellement portés candidats, mais c'est un homme pour l'instant qui fait figure de favori, son nom Keir Starmer, à 57 ans, le monsieur Brexit de la gauche britannique, est un modéré, défenseur des valeurs de gauche, mais dont la mèche de cheveux, toujours impeccablement mise, peine à masquer son image de gentleman centriste de la politique. Les précisions de notre correspondant à Londres, Antoine Gignot.
Il y a 5 ans, personne au Parti travailliste ne connaissait son nom. Élu sur le tard, Keir Starmer a passé les 50 premières années de sa vie à construire une carrière d'avocat, puis de procureur général, anobli par la reine, brillant, élégant, presque un peu trop lisse, disent ses détracteurs. C'est grâce à ses connaissances juridiques qu'il a rejoint l'équipe dirigeante du Parti travailliste pour faire face au gouvernement conservateur et négocier les modalités de sortie de l'Union européenne. Jeremy Corbyn cherchait quelqu'un capable de décortiquer la législation. Keir Starmer l'a fait avec brio en posant 171 questions sur le sujet au ministre du Brexit avant de convaincre son patron de la nécessité d'un deuxième référendum. Le parti, dit-il aujourd'hui, aurait dû prendre une position plus tranchée sur le sujet. Pas question pour autant de renier le virage vers la gauche de la gauche, amorcé ces dernières années. S'il veut gagner, Keir Starmer doit séduire les militants et faire oublier son image de gestionnaire centriste. Dans sa première vidéo de campagne, il met en avant son opposition à la guerre en Irak, son engagement aux côtés des demandeurs d'asile, et ses amis rappellent opportunément que ses parents, ouvriers et infirmières, l'ont prénommé Keir en hommage au fondateur du Parti travailliste.
Ouais, je précise par ailleurs que l'autre grande favorite pour prendre la tête du parti donc, se nomme Rebecca Long Bailey. À 40 ans, elle est aujourd'hui considérée comme l'héritière naturelle de Jeremy Corbyn. Et même si elle ne s'est pas encore officiellement lancée dans la course, toute la presse s'attend unanimement à ce qu'elle se porte candidate. Après des mois de paralysie politique, Pedro Sanchez s'apprête, lui, sauf coup de théâtre, à être reconduit d'une très courte tête au pouvoir aujourd'hui par les députés à la tête d'une coalition espagnole inédite depuis la fin de la dictature franquiste, alliant donc le Parti Socialiste avec son ancien frère ennemi, la gauche radicale de Podemos, après avoir perdu, comme prévu, un premier vote de confiance. C'était dimanche, faute de majorité absolue. Le chef du gouvernement n'aura besoin pour ce deuxième vote que d'une majorité simple pour se faire élire. De quoi mettre fin a priori à 8 mois de paralysie et surtout une instabilité chronique depuis 2015, même si le paysage politique de la 4e économie de la zone euro n'en reste pas moins complexe. Sans compter que les tensions en Catalogne ne demandent qu'à s'exacerber à nouveau et que la situation budgétaire rend par ailleurs les dépenses difficiles. Le contrat de la coalition droite écolo à l'épreuve en Autriche. C'est aujourd'hui que le nouveau gouvernement de la droite et des Verts doit entrer en fonction avec pour projet de protéger tant le climat que les frontières. Ou comment concilier le meilleur des deux mondes selon la formule sans cesse martelée par le chancelier Sébastien Kurz. Pour décrire donc ce contrat de coalition que son parti conservateur a passé avec les écologistes. Alors après un premier gouvernement émaillé de controverses et des provocations ciblées de l'extrême droite, cette nouvelle équipe féminisée, rajeunie et verdie est censée représenter l'Autriche dans sa diversité. Reste à savoir si en passant ainsi du brun au vert, ce nouveau gouvernement réussira à convaincre qu'économie et écologie font bon ménage et que le libéralisme sociétal des Verts est aussi compatible avec les discours de fermeté de Kurz sur l'immigration, l'intégration et l'islam. Toujours est-il qu'après 2 scrutins législatifs anticipés, c'était en 2017 et 2019, le chancelier a promis la stabilité et ne devrait donc pas se permettre de provoquer trop prématurément du moins des législatives en cas de désaccord avec les écologistes satisfaits pour leur part d'accéder enfin au pouvoir après plus de 3 décennies dans l'opposition. Lecture des plaques commémoratives, dépôt de gerbes et minutes de silence, les cérémonies en hommage aux 17 victimes des attaques de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher, point de départ d'une vague d'attentats djihadistes en France, ont débuté ce matin à 11h à Paris, à la même heure, il y a 5 ans, donc jour pour jour, les frères djihadistes Kouachi tuaient, je vous le rappelle, 11 personnes au siège parisien du journal satirique, dont 8 membres de la rédaction de l'hebdomadaire. Alors 5 ans après, où en est donc la liberté d'expression, ou dit autrement, le 7 janvier 2015 a-t-il fait bouger les lignes? Avant de poser la question à notre invité Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, je vous propose d'écouter la réponse du rédacteur en chef de Charlie Hebdo, Gérard Biard, interrogé par Antoine Marette.
Le climat, il n'a pas fondamentalement changé depuis 2015. Il y a eu, après le 7 janvier, évidemment, une vague qui s'est soulevée pour nous soutenir, qui était presque disproportionnée, mais à la mesure, je pense, du choc ressenti par la majorité, au fond, quoi qu'on dise, des imbéciles comme Emmanuel Todd ou Louis Plenel, qui a été ressenti par la majorité de la population française. Parce que le fait qu'en France, en 2015, dans une démocratie, on attaque un journal, à plus forte raison un journal d'opinion, on exécute ces journalistes et ces dessinateurs pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils pensent et pour ce qu'ils font, pour le travail qu'ils font, Évidemment que ça a choqué les citoyens français, c'est normal, c'est même rassurant. Et puis après, bah voilà, la vie continue, les choses continuent, et puis les polémiques continuent. Et les polémiques continuent sur les mêmes thématiques, au fond, que celles qui existaient avant 2015, à la différence qu'elles se sont encore plus exacerbées, c'est devenu aujourd'hui toujours plus à vif. On savait déjà que c'était interdit de dessiner Mahomet, aujourd'hui c'est interdit de dessiner une femme voilée. Comme si les femmes voilées incarnaient tous les musulmans. C'est même interdit de commenter quelque actualité que ce soit, et quelque débat que ce soit, et quelque polémique que ce soit, à propos de ces thématiques-là. Donc oui, la situation, elle est loin d'être apaisée, et elle est peu ou prou la même que depuis 2006, avec la publication des caricatures de Mahomet.
Et pour continuer donc d'évoquer cette journée du souvenir, 5 ans jour pour jour après les attentats contre Charlie, je le disais, invité de la rédaction aujourd'hui, Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Antoine Maret. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Monsieur Deloire, vous venez d'entendre l'analyse du rédacteur en chef de Charlie Hebdo, Gérard Biard, au sujet de l'état de la liberté d'expression selon lui aujourd'hui en France. Est-ce que vous partagez son état des lieux ?
Oui, il a raison sur le fait que malheureusement la situation n'a pas très favorablement évolué, qu'à certains égards elle a empiré. Elle a très favorablement évolué sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Ça s'inscrit dans quelque chose de plus large, alors avec des réalités qui sont évidemment divergentes. Mais après le 11 janvier, après la manifestation lors de laquelle il y avait devant des millions de Français des dizaines de chefs d'État de gouvernement, on aurait pu s'attendre à ce que les initiatives internationales en faveur de la dépénalisation du blasphème prospèrent. Et malheureusement, le bilan, il est très maigre. 5 ans plus tard, il y a ce qu'on appelle le plan d'action de Rabat qui a été mis en œuvre à l'initiative du Haut Commissaire aux droits de l'homme. Mais seuls 8 pays, et essentiellement des pays européens, ont retiré la notion de blasphème de leur cadre juridique, pendant que d'autres l'aggravaient à Brunei, en Mauritanie. On a réussi à obtenir la libération cette année d'un blogueur mauritanien qui avait été d'abord condamné à la peine capitale pour apostasie, peine ensuite réduite, puis finalement libération. Mais la situation, elle demeure très tendue. Et dans les démocraties dont parle Gérard Biard, et notamment dans la démocratie française, là, c'est pas les États qui s'en prennent, c'est pas les juges qui s'en prennent à la liberté d'expression, aux dessinateurs, aux journalistes. C'est parfois des franges de la population. On est plutôt dans ce que Huxley aurait décrit plutôt que dans un régime orwellien.
Est-ce que le dessin de presse est en recul en France? Gérard Biard parle de la difficulté au départ de dessiner Mahomet et désormais du voile. Est-ce qu'il y a un point de cristallisation autour de l'islam?
Alors il y a deux choses, il y a deux questions. Il y a celle du dessin de presse. Le dessin de presse, je pense que le dessin de presse, si je peux permettre ce très mauvais jeu de mots, a plutôt bonne presse quand même en France. Et ne serait-ce qu'à cause de la tragédie de Charlie Hebdo, qui a fait prendre conscience à chacun de l'intimité des rapports entre la liberté d'expression en général, notre droit à l'information, aux enquêtes, aux reportages, et de l'autre, l'exercice du dessin de presse, de la satire, de l'humour, voilà, ce caractère d'intimité entre la liberté d'opinion ou de conscience d'un côté et la liberté de religion ou de conscience d'un côté, et la liberté d'opinion et d'expression de l'autre. Il y a d'ailleurs des standards internationaux qui établissent l'intimité entre ces deux droits, mais dans son incarnation concrète, enfin l'une de ces incarnations concrètes qui est le dessin de presse, c'est vrai qu'il y a une forme de difficulté parce que le risque, c'est moins la censure que l'autocensure. Et l'autocensure, qui peut être le fait, alors, le cas échéant, de dessinateurs eux-mêmes, mais aussi de dirigeants de médias, et comme on a pu le voir à l'étranger, aux États-Unis, avec les dirigeants du New York Times qui ont pris la décision d'en finir avec le dessin de presse à la suite d'une polémique contre un dessinateur.
Mais alors justement, est-ce que la France est isolée dans le monde ? On aurait une France qui met en avant le dessin de presse avec une tradition de caricature, et le reste du monde plus timide, plus prudent, ou alors qui a peur par rapport à ces dessins de presse?
Ce serait évidemment une présentation très caricaturale. Il y a des dessins de presse, des dessinateurs de presse absolument formidables dans l'ensemble du monde, que met en valeur l'association de Plantu, Cartooning for Peace, du Venezuela à la Syrie, et avec certains d'entre eux qui prennent des risques vraiment malheureusement terribles. Mais sur cette question de l'absence de critique des systèmes de pensée, au fond, il y a une doctrine française française, qui est la jurisprudence de la Cour de cassation, d'ailleurs qui est la jurisprudence Charlie Hebdo, qui correspond à des standards internationaux du droit, qui est il y a des exceptions à la liberté d'expression légitimes quand on incite à la violence sur les personnes, par exemple, mais en revanche, il y a toute latitude pour critiquer les systèmes de pensée, qu'ils soient politiques, économiques, religieux, philosophiques, etc. Et cette distinction, il faut absolument la tenir. Et le risque dans lequel aujourd'hui, c'est de garder le droit d'expression très large, y compris le droit au blasphème, mais au fond, de plus tellement l'exercer. C'est que le droit survive formellement, mais qu'en réalité, on y renonce par crainte de blesser, cas échéant, mais aussi tout simplement par peur de subir les foudres de ceux qui, le cas échéant au bout du monde, pourraient considérer que parce que vous avez fait un dessin, vous êtes coupable et qu'il faut vous sanctionner. Rappelons-nous quand même que l'attentat contre Charlie Hebdo, il a des, semble-t-il, été pensé au Yémen.
Merci Christophe Deloire, secrétaire général, je le rappelle, de Reporters sans frontières, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également Antoine Maret. On termine avec un mot de météo. Des Pyrénées jusqu'au Languedoc, Roussillon, la région PACA et les Alpes. Le temps restera assez lumineux malgré un ciel parfois voilé. Partout ailleurs, la grisaille s'imposera. Quant aux températures, elles afficheront entre 4 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.